L'actualité en continu sur l'application RT. Pierre-Étienne Joie.
Dans le Haut-Val-de-Bagne, une lave torrentielle a détruit le pont d'accès au village de Lourtier. La localité est désormais pratiquement inaccessible. Seul un chemin pédestre permet de rejoindre le fond de la vallée en cas d'urgence. Il y a 10 mois déjà, la vallée avait été coupée en deux. Cette année, de tels événements étaient donc à prévoir. Le pont était d'ailleurs provisoire, c'est-à-dire qu'il est conçu pour s'aider en cas d'événement majeur afin d'éviter les dégâts plus graves. Et dans le Chental, le niveau de l'eau est monté dans le barrage de Ferden en aval de Blatten, et ce, malgré l'ouverture du système des vannes de fond. La situation est cependant considérée comme sous contrôle. Le lac pourrait retenir une éventuelle lave torrentielle selon les autorités. Le lac de Blatten, qui s'est formé en amont de l'éboulement, est actuellement stable. Une intervention sur le cône des Boulines n'est cependant toujours pas envisageable. Dans le canton de Fribourg, l'audit externe blanchit la direction du service de l'enseignement obligatoire de langue française des accusations de harcèlement, d'abus de pouvoir et de conflit d'intérêts. 6 mesures d'amélioration seront prises. Les accusations ciblées contre la direction du CENOF ne sont pas fondées, selon le Conseil d'État. Le conseil exécutif bernois et le gouvernement jurassien ont adopté 7 accords touchant la population prévotoise dans le cadre du transfert de Moutier. Il sera ainsi possible pour les propriétaires de véhicules dont le lieu de stationnement est Moutier de changer de plaque d'immatriculation sans frais jusqu'au 30 avril 2026. Un autre texte porte sur la réglementation du passage du système scolaire obligatoire bernois au système jurassien en août 2026 et du statut du personnel enseignant. Le candidat nationaliste Karol Nawrocki a remporté de justesse la présidentielle en Pologne. Un succès à contre-courant de l'engagement pro-européen et du soutien à l'Ukraine donné par le gouvernement actuel. Nawrocki l'a remporté face au maire de Varsovie qui vient de reconnaître sa défaite. Un candidat plus libéral et proche du Premier ministre Donald Tusk. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a eu un entretien avec le sénateur républicain Lindsey Graham. Lui est favorable à des sanctions drastiques contre la Russie. Nous devrions être en mesure de vous informer ce qui a été convenu en matière de sanctions de coopération avec les États-Unis sur ce sujet, a-t-elle précisé à Bruxelles. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé aujourd'hui à Vilnius, capitale de la Lituanie, pour participer à un sommet réunissant des dirigeants du flanc oriental de l'OTAN. Kiev souhaite dans l'idéal adhérer à l'OTAN ou obtenir des garanties de sécurité de l'Alliance pour dissuader la Russie de l'envahir à nouveau. Une adhésion de Kiev à l'OTAN est jugée inacceptable par Moscou, qui perçoit l'Alliance comme une menace existentielle à ses frontières et qui a également été exclue par le président américain Donald Trump. La météo, très nuageuse cet après-midi avec pas mal de pluie selon les régions, pluie parfois orageuse, quelques brèves éclaircies en pleine, possible, accalmie en toute région la nuit prochaine et demain mardi ciel changeant avec une alternance d'éclaircies surtout le matin et de moments plus nuageux, des averses et des orages en seconde partie de journée, 22 degrés au maximum.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Elle raconte les bombes, l'exil, l'attente, parfois l'espoir et la peur. Depuis Gaza, par messages vocaux, Naed partage son quotidien à Adel, en Suisse.
Il faut s'habituer à vivre cette vie, avec de la guerre, avec de la peur.
Un témoignage rare, sensible et documenté. Naed, une voix de Gaza, un podcast RTS inédit. 4 épisodes pour comprendre cette guerre de l'intérieur, disponible dès maintenant sur l'application Play RTS.
C'est vrai que dans les années 90, on rigolait pas du tout de la même manière. Et plus dans 10 ans, on rigolera pas de la même manière. Évidemment que c'est dommage pour la publicité d'avoir un petit peu toujours cette peur. On est quand même un petit peu dans la retenue tout le temps. Et c'est souvent ce qui ressort, c'est qu'on choisit, et le client choisit quand même des pistes ou des tonalités humoristiques qui sont des fois un peu ce qu'on appelle safe, quoi, où on prend pas trop de risques.
Vacarme. Vacarme.
Les feux de l'humour.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Quand plus rien ne va, quand tout part en vrille, il nous reste le rire. C'est peut-être en raison des temps incertains que nous traversons que les humoristes cartonnent. Mais l'humour n'existe pas uniquement sous la lumière des projecteurs. Partout, il est une arme puissante et une arme utile. Qu'il s'agisse de séduire, de vendre, d'être élu dans le monde politique, d'imposer un point de vue, de désamorcer un conflit ou simplement d'attirer l'attention. Une arme que nous manions avec plus ou moins d'aisance naturelle, une arme que nous pouvons affûter, apprendre à maîtriser et dont nous pouvons même faire notre métier. Nous partirons tout à l'heure dans un journal réputé en Suisse pour la drôlerie de ses unes, le Quotidien Jurassien. Et nous essayerons de voir ce qu'un titre drôle apporte au journal et s'il y a une recette pour trouver la titraille qui fait mouche. Mais ce sont d'abord des publicitaires qui nous ouvrent les portes de leur agence, l'agence Trio à Lausanne. Ce jour-là, brainstorming pour une nouvelle campagne de pub.
On va aller chercher mes collègues à l'étage. T'es venue, t'es prête? Parfait. Tristan, on est prêt. Alors, on est prêt pour le brainstorming. C'est parti. On va en bas.
Sur le trône, reportage Mathieu Truffert, réalisation Jean-Daniel Motet.
Bien, alors on est au complet. Alors comme dit aujourd'hui, l'objectif c'est de parler de la nouvelle campagne pour la Suisse romande, plus particulièrement pour notre client Geberit, pour son produit AquaClean. Donc AquaClean, pour rappel, c'est le WC douche. Donc les quelques objectifs, c'est évidemment de faire évoluer les représentations, car non, comme vous le savez, ce n'est pas bizarre de se laver avec de l'eau, même si on n'a pas forcément l'habitude, de créer un territoire de communication plus différenciant, et ce, avec un humour léger, si possible. On est sur une cible plutôt homme, plus de 55 ans, plutôt en couple, ouvert à l'innovation utile, et aussi sensible au confort et à l'hygiène. Puis une deuxième cible, qui sont les couples actifs, tranche d'âge plutôt 45-65 ans, propriétaires, classe moyenne plus, vivant en agglomération, et puis à la recherche de solutions bien-être pour leur habitat. Pour conclure cette petite introduction, le mandat aujourd'hui, c'est de proposer des concepts forts avec un ton distinctif roman et puis de proposer aussi des idées qui permettent de normaliser l'usage du WC douche avec le sourire. Mickaël, je te propose d'enchaîner avec quelques insights stratégiques.
Ouais. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que notre client, quand même, hein, on voit que c'est un client qui est quand même plutôt dans du haut de gamme. Et il est sûr que nous, on doit quand même faire attention un peu à cette marque-là. On ne peut pas faire n'importe quoi.
C'est vrai que le monde de l'hygiène, c'est très cadré aussi. Donc on arrive peut-être à trouver cette petite subtilité qui fait que ça fera sourire les romans et puis sans non plus partir dans quelque chose de trop graveleux ou je ne sais quoi.
Nous, on était partis quand même de l'idée que c'est plutôt la femme qui dessine. Vous pensez quoi? On devrait continuer à s'adresser quand même aux femmes, même si des cibles, c'est des hommes, je ne sais pas. C'est pas une spécificité romande, ça. Hein. C'est juste une spécificité un peu comment ça se passe au sein d'une famille, d'un couple, pour qui décide au bout, à qui on s'adresse et comment on s'adresse.
Une des raisons aussi qui font que les hommes sont plus intéressés, c'est peut-être le côté un peu gadget aussi, finalement, de... Ah oui, c'est vrai qu'on voit quand même souvent que tout ce qui est un petit peu gadget, électronique, même si c'est pas vraiment de l'électronique ici, mais ça reste un petit peu un gadget que les hommes sont quand même plus sensibles parfois et que les femmes trouvent peut-être un peu plus superflu. Donc ça peut peut-être être ce levier-là aussi qui intéresse les hommes.
Le côté un peu... jouer un peu sur le côté plaisir de jouer. Parce que là, vraiment, tu joues un petit peu avec la télécommande quand même. Parce que tu as une app, hein, et puis la télécommande, elle permet de déclencher le jet. Tu peux quand même moduler un peu la puissance. Et in fine, je crois que quand tu as le projet final, quand tu as le truc final, tu peux aussi même au niveau de la température. Donc c'est assez fin, quoi. Mais c'est vrai, c'est drôle de jouer. Forcément, tu t'amuses à le faire gicler une, deux fois, la première fois. Bon, à part ça, quand même, dans un couple, dans une famille, les toilettes, c'est toujours quand même une thématique, mais plus, on est d'accord, au niveau de la propreté, quoi.
Oui.
Mais si on aborde la propreté par l'humour,
Au niveau de la propreté des toilettes elles-mêmes, qu'est-ce que ça change forcément le WC-douche? Je suis pas sûr qu'il y ait un fonctionnement. Tu tires toujours la chasse, c'est quand même un peu semblable. C'est ta propreté à toi qui est surtout impactée.
Ouais, c'est ta propreté à toi. Mais la propreté des toilettes, c'est une thématique alors dans tous les couples et dans toutes les familles, non?
Ouais. Oui, moi j'imagine. Ouais.
Parce qu'il y en a quand même toujours qui disent « Oui, c'est toujours les hommes qui font que c'est sale. » Non? Il n'y a pas une...
Il y a souvent aussi le problème de... Non, alors oui aussi, ça c'est aussi un problème, mais du rouleau de papier vide. Et là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, parce que du coup, on n'a plus besoin de papier, et du coup, il n'y a plus d'embrouille, parce qu'on n'a pas remplacé le dernier rouleau.
Ouais, ça pourrait. Comment on va... Ouais.
Il y a toujours la tendance d'avoir le dernier smartphone, etc. Puis des fois, quand on allait dans les maisons, ben, il y avait l'enchaînement de télécommandes. Il y avait celle de la télé, ah ouais, celle de l'appareil pour les regarder les films, etc. Ben, est-ce que peut-être t'as la dernière télécommande? Ben, c'est celle de tes toilettes, quoi. Mmh. Et puis, c'est un peu le truc un peu parodique en disant, ben, en fait, t'es pas tendance si t'as pas...
C'est vrai que t'associes pas la télécommande au WC, donc ça peut être un peu déconcertant et puis énigmatique, voire peut-être teaser, de montrer une télécommande et de dire mais à quoi sert cette télécommande, et les gens ne sauront pas forcément. Peut-être c'est aussi
à avoir un petit peu d'humour aussi sur le visuel en changeant les touches, en exagérant un petit peu là. Enfin, ouais.
Ouais. C'est vrai. Alors la télécommande, c'est le truc qu'on perd toujours. On sait pas où elle est. Qui a pris la télécommande? Ou qui a la télécommande? Ou bien tu peux aussi dire ah tiens. Les toilettes, c'est le seul endroit où c'est moi le maître de la télécommande. C'est vrai, tu te bats toujours. Il y a quelque chose. Bon, après, peut-être un autre truc qui peut être marrant, c'est cette incapacité qu'on a à utiliser une télécommande aussi. Parce qu'on se plante tout le temps, non? Alors ça, je parle des hommes de 55 ans, où tu n'arrives déjà pas à l'installer, tu n'arrives pas à la faire fonctionner, il y a toujours un truc qui ne joue pas, non? Ça pourrait être plutôt un message WhatsApp depuis les toilettes qui dit... Je ne sais pas faire fonctionner la télécommande. Ou bien, faut-il s'agite pas, faut-il faire redémarrer les toilettes? Ça pourrait être ça aussi, non?
Ouais, faut juste qu'on fasse attention de ne pas tomber dans le fait qu'il est difficile à utiliser. Non, et puis,
oui, ça.
Ouais, ça desservirait le produit pour le coup.
Ça pourrait desservir.
Mais il faudrait qu'on trouve une façon drôle de se dire mais c'est quoi cette télécommande? J'ai pas besoin de télécommande aux toilettes, quoi.
Évidemment, j'ai pas pu m'empêcher dans les expressions avec l'eau de penser à Nabila. Bah oui. Non mais.
Allô, tu veux dire?
Allô. Okay. Alors, je pense que ça doit être déposé. Hein. Je me pose la question si on peut l'utiliser tel quel. Non mais allô quoi. Il y en avait d'autres, un peu des expressions de ce type-là. Ou simplement avec l'eau, parce que ce qui surprend, c'est quand même l'eau quoi. Mm. Bah l'eau au restaurant, c'est toujours la même chose, non? Avec ou sans bulle? Non? Ça c'est... On pourrait poser cette question. C'est où les toilettes? Et tu poses la question, avec ou sans bulle? Elle est plus dans votre actualité.
Laura Yeni, quel bilan de la petite séance à laquelle je viens d'assister?
Plutôt satisfaite d'avoir pu dégager 3 pistes. Maintenant, il s'agit de les creuser, de les développer et puis de venir avec des concepts concrets.
Michael, vous êtes le stratège ici chez Trio. Mm-hmm. L'exigence, c'était d'être drôle, d'être rigolo. Vous pensez que vous allez réussir à l'être avec ces WC douches?
Mais bien sûr qu'on va l'être, et c'est important. Et c'est le grand problème d'une pub, quand on la refoule, hein, parce que on a quelque chose qu'on n'a pas envie, dont on n'a pas envie de parler, bah, l'humour, et surtout en Suisse romande, c'est la meilleure porte d'entrée pour parler des choses un peu taboues.
Surtout en Suisse romande, pourquoi?
Mais pas parce que c'est... Là, je vous parle de 25 ans d'expérience, que je travaille un petit peu sur le Rusty Graben et les différences culturelles. On a cette force en Suisse romande que souvent la porte d'entrée du premier contact... Et vraiment, quand c'est pas l'alcool, bien sûr, non, je rigole, là je rigole, voilà, vous voyez ce que je veux dire. On a vraiment cette habitude de rentrer un petit peu par la dérision et l'humour, et je trouve que ces dernières années, ça s'est encore accentué. On voit quand même un humour qui a une place beaucoup plus forte partout en Suisse romande, que ce soit la télévision, dans les médias, le stand-up, etc. Cette culture, elle est forte, et je trouve que ces dernières années, elle a encore beaucoup plus progressé, aussi par le biais des réseaux sociaux, ce qu'on peut voir sur TikTok, etc. L'humour, la punchline, elle est de plus en en plus forte. Mais par contre, en Suisse romande, ça a toujours été un premier point de contact pour créer la première relation. Alors qu'en Suisse allemande, et moi je peux vous le dire parce que j'habite en Suisse allemande, c'est pas facile parce qu'ils ont beaucoup moins ce premier humour qui permet d'ouvrir la relation.
Nos clients sont aussi basés en Suisse allemande, donc tout l'enjeu sera aussi de leur expliquer en fait les différences culturelles et des choses qu'elles vont peut-être pas forcément comprendre, qu'il faudra déjà les traduire aussi en allemand pour leur expliquer et leur expliquer aussi pourquoi ça peut toucher le public roman.
On a des humoristes très connus en Suisse romande. Est-ce que vous avez des fois l'impression de faire le même boulot que Thomas Wiesel ou que Marina Rollmann?
Non, je pense pas que c'est le même boulot, parce que nous, c'est pas forcément de faire rire absolument notre enjeu premier, c'est plutôt de marquer les esprits, que les personnes qui vont voir nos publicités les gardent en tête, qu'elles leur fassent sourire, c'est plutôt ça notre objectif principal, plutôt que de chercher le rire à tout prix.
Donc c'est un humour un peu utilitaire ?
Absolument, c'est un humour plus utilitaire, plutôt que juste faire rire pour amuser comme le ferait justement un humoriste. Les gens viennent le voir pour ça, alors que nous, quand les gens voient une publicité, ils s'attendent pas forcément à rire. Donc c'est pour créer aussi cette petite surprise.
Comment dire ça? C'est le premier objectif de la communication, c'est d'abord arriver à rentrer dans la relation. Et l'humour, c'est vraiment une des... Je dis pas que c'est la seule, hein, mais c'en est une qui est assez simple. Et en plus, bah voilà, ici, on a, si j'ose dire, avec des WC douches, on a de la matière pour rigoler. On aime tous rire avec ça. C'est très digressif, hein, finalement. On touche l'enfant qu'on a ou nous-mêmes. Et ça marche super bien. Donc, si on n'utilise pas l'humour pour cette thématique, je trouve qu'on passe complètement à côté.
Oui, absolument. C'est vraiment une arme de séduction pour vraiment attirer l'attention.
Et c'est ça la difficulté, trouver le bon humour par rapport aux bonnes personnes qu'on veut toucher.
Vous avez parlé des réseaux sociaux, d'Internet. C'est une possibilité de faire du buzz incroyable. C'est aussi la possibilité de créer du scandale. Ça vous inquiète en 2025, au moment de chercher à faire rire, de peut-être être maladroit?
Alors oui. C'est vrai que dans les années 80, 90, on rigolait pas du tout de la même manière. Et dans 10 ans, on rigolera pas de la même manière. Par contre, évidemment que c'est dommage pour la publicité d'avoir un petit peu toujours cette peur. Hein. On est quand même un petit peu dans la retenue tout le temps. Et c'est souvent ce qui ressort, c'est qu'on choisit, et le client choisit quand même des pistes ou des tonalités humoristiques qui sont des fois un peu ce qu'on appelle safe, quoi, où on prend pas trop de risques. Et c'est clair qu'aujourd'hui, ben, on peut plus parler comme Coluche. Hein. Malheureusement.
Alors, quotidien jurassien. Bonjour. C'est la rédaction ici, c'est bien ça? Ah, j'ai rendez-vous avec monsieur Rémi Chetla. C'est là que vous imprimez le journal ou...
En bas, ouais.
Bonjour, Mathieu Truffel.
Bonjour, Rémi Chetla.
Enchanté, merci beaucoup de m'accueillir. Et puis ici, c'est la rédaction.
Alors, c'est la rédaction centrale. Hein, on a des bureaux aussi à Seigne-Légier, à Pourrentru, à Moutiers, mais ici, à Delémont, on a la rédaction centrale où on a le back-office et puis on a évidemment les rubriques Delémontaine, cantonale, les sports, le magazine.
Il y a beaucoup d'actu aujourd'hui.
Aujourd'hui, au niveau régional, il y a un petit peu moins d'actu. On sort d'une période de vacances et l'actualité reprend gentiment. Raison pour laquelle, que, voilà, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir le journal avec une actu internationale. Ça sera l'ouverture du conclave demain. Ben voilà, ça intéressera les Jurassiens dans tous les cas, puisque la majorité des Jurassiens sont catholiques. Et que par ailleurs, leur ancien évêque, Monseigneur Courtecor, fait partie maintenant des cardinaux qui vont désigner le successeur de François.
Où se décident les unes et les fameux titres du quotidien jurassien?
Alors, suivez-moi, c'est pas très loin d'ici. Voilà, c'est pour cette petite alcôve, ici, que se partagent les responsables de l'édition, qui sont Arnaud Bernardin et Dimitri de Graaf.
Bonjour, Mathieu Truffel.
Bonjour. Et maintenant, ben, bon boulot. Pour le titre, ben voilà, vous connaissez ces sujets
on
qui...
A ta bénédiction.
Vous avez ma bénédiction, puis vous avez toute ma confiance. Je dirais, il y a aucun souci. Mais vous savez que c'est un des sujets un petit peu particuliers, la religion, un peu comme tous les faits divers sordides, tout ce qui touche à la mort, tout ce qui touche au sexe, tout ce qui touche au genre, aux races. C'est pas les sujets sur lesquels il faut essayer de faire des plaisanteries.
Arnaud, Dimitri, vous avez entendu le rédacteur en chef, va falloir être drôle, mais pas trop, enfin malin.
Oui, oui. Il va falloir prendre ça en considération et ne pas tomber dans le vulgaire, dans le gag, et que les gens aient l'impression qu'on ne respecte pas l'intérêt qu'ils portent au sujet. Ça, c'est vraiment important.
Mais vous allez quand même tenter un petit truc un peu malin.
Oui, sans aucun doute. C'est notre façon de travailler. On a l'aval de nos responsables ici au quotidien jurassien.
Je vois que devant vous, vous êtes arrivé avec une petite feuille quadrillée avec déjà quelques notes. Ça veut dire que vous avez déjà un tout petit peu réfléchi au truc.
C'est ça. Voyant le conclave le début du conclave arriver, on anticipe un petit peu les sujets qui peuvent faire la une, c'en était un.
Qu'est-ce que vous avez écrit?
J'ai des choses, par exemple, beaucoup d'appelés, un élu.
Oui.
Après, il y a plein de choses. L'heure des votes.
Oui.
L'heure des votes.
Oui.
Voilà. Un double sens avec la dévotion. Le conclave ouvert,
ouais.
Puisque le conclave est par définition fermé.
Ouais.
Et puis après, alors j'avais d'autres choses, j'avais pas mal de choses en fait en lien avec cette tradition particulière de la cheminée.
Vous pensez à quoi ?
J'avais par exemple signaux de fumée,
ouais.
Le feu sacré,
ouais.
Soit noir, soit blanc.
Ouais. Moi j'ai deux, trois petits trucs, mais beaucoup plus... j'ai moins réfléchi que toi, mais j'ai des trucs vraiment alors tout bêtes, par exemple sous cloche. Parce qu'ils vont être sous cloche pour demain, ça c'est justement un petit peu gag. C'est un peu, je pense qu'on va, c'est un petit peu léger pour.
J'aime bien. Je trouve que c'est vraiment bien.
Et l'état de siège, ça pourrait aussi être une piste, voilà, de sa siège et tout ça.
Ouais. Après, alors d'après ce que, je suis vraiment pas un spécialiste du Vatican, mais en fait, il y a visiblement plusieurs candidats papables. Et puis on parle d'une élection ouverte. Alors moi j'avais pensé à des trucs comme Dieu seul sait ou Dieu sait qui.
Ah oui.
Peut-être ça.
Qui, c'est bon, je trouve.
Ça, peut-être ça. Ça peut faire quelque chose. Hein.
Tout dépend de ton.
Qui. Oui, oui. Dans le sens n'importe qui.
Oui.
Oui. Exactement.
Dieu
oui.
sait. Mais qu'est-ce qui mais, encore ils vont nous. Mais Dieu sait qui met.
Oui. Et sinon, il y a aussi la notion de secret, hein, parce que donc les cardinaux sont tenus au secret. Ouais. Alors, avec une photo, par exemple, où on verrait des gardes suisses devant la porte de la chapelle Sixtine, on pourrait faire
le secret.
Secret bien gardé.
Oui.
Je sais pas, il faut méditer encore un peu.
Méditons.
Il faut se recueillir un petit peu.
Arnaud, Dimitri, vous avez sorti plusieurs unes historiques du quotidien jurassien. Certaines qui ont un peu marqué les esprits, vous me montrez un peu.
Vu qu'on parlait de religion tout à l'heure avec ce conclave, là, il y en a une qui illustre bien que c'est difficile de parler de religion sans heurter trop les sensibilités. Là, c'était lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. On a titré « Un coup au cœur », avec le cœur, avec C-H-O-E-U-R. Et puis, il y a des lecteurs qui avaient vraiment pas apprécié, qui avaient eu l'impression qu'on se moquait un peu, qu'on n'avait pas saisi en fait l'importance de ce drame. Et en fait, c'était pas du tout le cas. C'était...
Mais avec raison aussi, moi je donne raison quand même au lecteur. En l'occurrence, ce titre-là, c'est moi qui l'ai signé. C'est un titre, pas que je regrette, parce que ce que ça veut dire, c'est que voir Notre-Dame brûler, ça fait quelque chose, on ressent quelque chose au cœur. Mais en revanche, ce que je referais aujourd'hui, c'est que je bifferais simplement ce H en titrant simplement un coup au cœur. Le H était trop parce que le H veut montrer qu'on fait un jeu de mots. Et ça, c'est complètement superflu. Je dirais que c'est tendre une perche grossière aux lecteurs qui n'en ont pas besoin. Donc, je referais ce titre autrement. Mais effectivement, là, on avait eu des messages de lecteurs qui trouvaient que le titre était déplacé. Quoi.
Vous en avez sorti beaucoup. Il y en a peut-être encore une ou deux qui sont intéressantes ou emblématiques.
Ça, tu sais qui a fait ? Ah, si, ça.
C'est le mot d'Abu
Dhabi. Ah, oui. Ah, mais celle-là, elle est célèbre.
Montrez-nous, alors je la vois pas bien.
Y compris dans l'Arc Lémanique. Donc, c'était la fameuse affaire de Pierre Maudet à Abu Dhabi. Puis nous avions titré, donc, vraiment sur les voisinages de son, le ministre Pierre Maudet à Abu Dhabi. Donc, il était lâché au fur et à mesure par ses différents soutiens politiques. Et puis, on avait titré le ministre Pierre Maudet à Abu Dhabi. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que on a encore une autre porte d'entrée. Donc, bien sûr, il y a le texte, mais il y a aussi l'image. Et puis, c'est vrai que parfois, on arrive à donner des jeux avec l'image. C'est parfois la photographie qui donne le titre.
Le chapeau, par exemple.
Le chapeau.
Je crois que je l'avais sorti.
Le chapeau.
Chapeau.
La
reine d'Angleterre, là, qui fêtait, c'était quoi? C'était ses 70 ans au pouvoir. Donc, avec son gracieux chapeau et le titre, chapeau.
Tout simple. Je trouve que ouais, ça n'a rien de choquant, c'est juste sympa.
Arnaud Bernardin, il est 5h30. La une avance.
La une avance gentiment, oui. Rien n'est encore arrêté, on n'a encore pas tout à fait décidé, il y a plusieurs choses.
Alors là, c'est beaucoup d'appelés, un élu, et puis évidemment une rangée de cardinaux.
La file des cardinaux qui s'approche de l'entrée de la chapelle Sixtine.
Qu'est-ce qui vous fait encore douter sur ce titre?
Je trouve un peu long, peut-être qu'il manque un peu de pep.
Et puis tu mettrais le texteur blanc dessus, ou bien?
Le texteur blanc, je pense.
Oui.
Je pense qu'on comprend quand même assez aisément de quoi on parle.
Il y a quand même un peu un double sens. Non, c'est sympa.
J'aime bien aussi le Dieu seul sait. Il y a une espèce d'aura de mystère quand on dit Dieu seul sait. Et puis, je trouve que ça collerait assez bien avec cette image d'où se dégage une certaine solennité quand même dans cette magnifique chapelle Sixtine. Pourquoi pas? Je suis encore un peu hésitant entre ces deux titres-là. Beaucoup d'appelés, un élu ou Dieu seul sait.
Ouais, c'est vrai que ça peut se discuter. On aime aussi beaucoup les titres assez courts, mais il faut encore y réfléchir, effectivement. Mais les deux sont. Enfin, pour moi, les deux iraient très bien.
Le rédacteur en chef, par exemple, on peut lui demander.
Dieu seul sait, et le rédacteur en chef.
Après Dieu, le rédacteur en chef. Voilà.
Rémi?
Oui.
On aurait une question. On hésite un petit peu entre deux titres.
Oui.
Est-ce que tu pourrais venir voir, donner ton avis?
Parmi les multiples idées, il y en a deux qui ont été retenues, là, qui semblent sortir un petit peu du lot.
Oui.
C'est celui-là, beaucoup d'appelés un élu.
Oui.
Ou alors, un autre titre qui pourrait faire l'affaire, qui nous paraît pas mal, c'est le titre « Dieu seul sait ».
Dieu seul sait. C'est pas mal, Dieu seul sait. En tout cas, dire entre l'illustration, le titre, l'amorce, le lancement, là, il y a une vraie cohérence. Et puis, elle est belle, cette photo.
La photo est belle, oui.
Ouais, c'est pas mal, ça. Il y a peut-être mieux encore qui va venir d'ici 23 heures, mais c'est pas mal, ça.
Rémi Chetla, tout à l'heure, lors du briefing, vous avez dit « Religion, attention », dans ce titre. Il y a la marque de fabrique du quotidien jurassien, à votre avis?
Je pense qu'il y a eu des titres qui étaient lisibles à plusieurs degrés, peut-être davantage que celui-là, mais celui-là, il est très incitatif, je pense.
Il se passe quand même un truc assez incroyable, ici à Delémont et dans tout le canton. Un petit journal régional se permet, ce que se permet un peu Libé en France. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient?
Je ne sais pas si ça a un lien avec le caractère des Jurassiens ou si c'est un heureux hasard. Je pense qu'il faut des gens qui aient un peu l'esprit pour faire ce genre de titre. L'art du titre est subtil, compliqué. On peut être un excellent journaliste et avoir aucune idée d'un bon titre. Parce qu'un titre qui est bon, il doit être à la fois informatif et incitatif.
Parfois, le métier ressemble un peu à celui de publicitaire, hein, dans la quête d'une formule.
Ça veut dire que cette petite touche d'humour ou de deuxième degré, c'est aussi une démarche commerciale?
Je ne sais pas si une incidence sur les ventes du quotidien jurassien. Le titre et l'esprit du titre et ce petit sourire qu'on peut peut-être provoquer chez les gens le matin quand ils ouvrent leur journal ou quand ils nous lisent sur un écran, eh ben c'est un petit plus.
Vacarme.
Habemus titrum.
Parfait.
Sur le trône, c'était un reportage de Mathieu Truffert. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le nous au 058 134 134 0. Êtes-vous enclin à acheter un journal dont le titre vous a fait sourire? Un produit dont la pub vous a fait rire? Vous souvenez-vous d'un slogan, d'un titre qui vous a tapé dans l'œil? Vous le partagez avec nous? 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, nous parlerons du métier d'humoriste quand il se pratique loin des scènes et des théâtres.
Mesdames et messieurs, 30 ans, ça se fête. Batman voit les choses en grand, comme toujours. Mais en attendant, pour vous mettre en bouche, on va vous proposer un spectacle qui est tout à fait dans la veine de Batman. Nous avons la chance ce soir d'accueillir l'excellent, mais néanmoins piquant, Thomas Wiesel. Tonnerre d'applaudissements.
Gag à 2000 balles, un reportage à écouter demain dans Vacarme ou tout de suite sur le Play RTS, où vous pouvez d'ores et déjà écouter les 5 reportages. Il est 13h30, tout de suite, c'est Histoire vivante. L'historienne Tiphaine Robert nous raconte les modifications à travers les siècles des rues de nos villes. Très bonne écoute.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Pour cette nouvelle série, Histoire vivante vous propose une traversée historique des usages de la rue sur 24 heures, du soir au petit matin. Sur le pavé, le goudron, la terre battue ou le béton, la rue est à nous. Épisode 1, la guerre des piétons. Il est 8h du matin, on sort de chez soi et on plonge dans la circulation urbaine. Une bataille s'engage avec les bêtes, les détritus et les étals, et bientôt les voitures à cheval ou à moteur. Tiphaine Robert est historienne à Fribourg, et une de ses spécialités, c'est l'histoire de la route, aussi bien en ville qu'à la campagne.
Alors, pour voir un petit peu à quoi ressemble la rue et pour comprendre l'histoire du partage de cette rue à travers l'histoire, je trouve que c'est intéressant de retracer l'histoire des trottoirs, parce que il est ambigu, le trottoir. Il, en même temps, il donne une place aux piétons, puis d'un autre côté, il montre une répartition très claire. Ça veut dire que les gens qui marchent n'ont pas leur place au centre même de la rue. Donc le trottoir, il a existé déjà durant l'Antiquité, à l'époque romaine. Et puis, il a été redécouvert d'ailleurs à Pompéi. Donc le trottoir, c'était à la fois se protéger des gens qui marchent justement du trafic roulant, mais aussi protéger des saletés, des eaux usées, etc., qui passaient dans la rue. Et puis, ben, du coup, au cours du 19e siècle, surtout, les urbanistes ont commencé à réinstaurer, à de nouveau utiliser le trottoir. Et, parce qu'il faut peut-être dire que pendant le Moyen-Âge, il avait presque disparu. Ces eaux usées, ces immondices passaient au milieu de la rue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, plus on était loin du milieu de la rue, mieux on était protégé. Donc, je crois que c'est de là que vient l'expression tenir le haut du pavé. Ça veut dire qu'on est loin des immondices. Donc, en fait, les obstacles, ils existent avant l'arrivée de l'automobile, mais c'est aussi des obstacles organiques, donc des obstacles à la marche, des entraves à la marche, si on veut.
Dans la rue, au 19e siècle, on voit bientôt apparaître les tramways. C'est en 1832, aux États-Unis, à New York, entre Manhattan et Harlem. Et les premiers wagons sont tirés par des chevaux.
Avant l'automobile, il y a les attelages, il y a toutes sortes, il y a cette fameuse cohabitation des modes de transport, il y a les attelages, il y a les gens qui marchent, le tram progressivement, d'abord hippomobile, puis à traction vapeur, ça n'a pas duré très longtemps, mais ensuite électrique. Donc il y a cette cohabitation des transports, mais qui demeurent tous assez lents. Le tram va un maximum 30 km/h. Et puis dans les villes, vu qu'il s'arrête souvent, il va pas très vite en somme. C'est là que l'arrivée de l'automobile va poser problème aux autorités et aux gens, enfin qui va bouleverser la vie des gens, c'est qu'il y a une cohabitation de vitesses différentes. Les automobiles sont plus rapides. Alors au début, elles sont pas très rapides, mais quand même, elles posent un danger pour justement dans cette cohabitation. Et puis, elles vont progressivement justement favoriser justement cette fonction circulatoire de la rue.
Aujourd'hui, le piéton suit avec plus ou moins d'applications un parcours composé de trottoirs et de passages piétons. Mais ce parcours spécifique tracé à travers la ville, c'est une invention très progressive.
On se déplace de manière assez libre en fait sur la rue, puisque la législation, la circulation, c'est avec l'arrivée de l'automobile que les choses vont être, qu'il y aura une redéfinition de l'espace public, une hiérarchisation, une redéfinition des inégalités en quelque sorte. Et on se déplaçait librement. Alors, au début des années 20, par exemple, dans les années 20, en Suisse, les piétons peuvent se déplacer librement sur la chaussée. C'est seulement à partir de 1932, dans le cas de la Suisse, mais ce sera des législations qui vont se faire un peu au même moment dans l'entre-deux-guerres en Europe, que la priorité va être donnée sur la rue à l'automobile. J'aime beaucoup cette anecdote qui en dit long sur finalement une autre réalité que celle d'aujourd'hui. Il y avait une décision du tribunal cantonal d'Aarau qui a décrété qu'un piéton pouvait se déplacer librement sur la chaussée, et la décision précise, même s'ils sont sabots et sourds. Je pense que c'est une allusion à un paysan dans l'idée que, voilà, on peut se déplacer librement sur la chaussée. Et la décision précise encore, parce que la personne ne met pas en danger les autres usagers de la route.
Et puis, les choses vont changer très progressivement dans la première moitié du XXe siècle, Tiphaine Robert. C'est-à-dire qu'on va réorganiser petit à petit les villes en fonction justement des voitures. Quel impact ça a tout simplement sur la rue?
Pour la Suisse, c'est intéressant de voir qu'il y a un transfert des compétences vers le niveau national, donc vers la Confédération. Et ça, c'est quelque chose qui était souhaité par les promoteurs de l'automobile, dans le sens que ça permet de faire taire des oppositions régionales, locales, cantonales, dans le cas de la Suisse. Et ça, ce sera vraiment quelque chose, un programme politique, en fait, dans les années 20. Et ce sera chose faite, puisque à partir de 1921, c'est la Confédération qui légifère et qui va justement supprimer des législations cantonales. Enfin, ça va mener à la suppression de législations cantonales qui interdisaient, par exemple, toute circulation automobile le dimanche après-midi. Il y a là, au début des années 20, il y a encore une majorité des cantons en Suisse qui interdit la circulation le dimanche après-midi dans les rues et sur les routes. Alors c'était important de légiférer au niveau national, puisque c'est vrai qu'il y avait des disparités selon les cantons. Les heures, par exemple, d'interdiction de circuler n'étaient pas les mêmes, etc. Donc c'est vrai, on peut comprendre en même temps cette uniformisation. Et du coup, de l'autre côté, ça a permis justement de faire taire, si on était paysan, je sais pas, dans le canton du Valais, tout d'un coup, avec le fait que ce soit une question de circulation typiquement, soit réglée au niveau fédéral, ben les personnes auront beaucoup moins d'impact que si c'était au niveau communal, cantonal.
La Suisse ne s'est pas facilement laissée séduire par la voiture. On parle même d'autophobie. Dans les Grisons, les voitures sont d'abord interdites.
Oui, alors il y a les Grisons, dont j'ai parlé de ces interdictions aussi. Il y a plusieurs initiatives, que ce soit dans les villes ou à la campagne. C'est intéressant de voir qu'il y a aussi des pétitions, etc., contre le bruit à Lausanne, par exemple, en 1900, au début des années 10, je crois, dans les villes et à la campagne. Alors on sait que certains automobilistes étaient accueillis à coups de cailloux dans certains villages, notamment justement au Grison. Et au Grison, oui, il y a eu quelques accidents au tout début 1900, ce qui fait que le canton a décidé d'interdire toute circulation automobile. Puis cette interdiction, alors il y aura quelques exceptions, hein, aussi des exceptions quant au type de véhicule qui pourront circuler, mais elle va durer jusqu'à 1925. L'opposition de la population et d'élus locaux, elle venait, elle se justifiait par le risque d'accident. Il n'y avait pas seulement ça, il y avait la question d'autres nuisances comme la poussière, qui était un véritable fléau à ce moment-là, vu que les routes n'étaient pas encore goudronnées. Et il y a aussi le fait qu'on ne veut pas adapter les routes à l'automobile, puisque on vient de financer la construction du chemin de fer rétique, et donc les communes ne sont pas prêtes à faire ces nouvelles dépenses. Donc il ne faut pas non plus y plaquer des revendications d'aujourd'hui, hein, c'était vraiment, par exemple, écologiste. Hein. Chaque opposant avait différentes raisons. Il y avait aussi des milieux touristiques et mondains, des milieux de tourisme mondain, justement, qui voulaient préserver le calme de ces endroits, au Grison, de certaines stations touristiques. Il y avait des paysans, effectivement, qui trouvaient leur vie complètement bouleversée avec l'arrivée d'automobiles. Et puis, il y a aussi un enjeu un peu de classe. Ces automobilistes, c'était souvent des gens, des citadins, de Zurich, qui arrivait là, et voilà, il y avait aussi une tension comme ça entre ces différentes classes.
Mais on entend bien, Tiphaine Robert, que la question des nuisances de l'automobile est déjà au cœur des préoccupations.
Oui, tout à fait. Et ça, je trouve très intéressant d'étudier les nuisances, et surtout, pas seulement les nuisances, et pas seulement le fait qu'on les dénonce, parce qu'il y a beaucoup de textes qui dénoncent tous les problèmes qu'apporte l'automobile en ville et à la campagne, mais c'est surtout de voir comment elles ont été gérées, ces nuisances, par les autorités. Et là, les autorités ont été aidées par les propriétaires d'automobiles qui se sont regroupés, qui étaient regroupés dans principalement deux clubs en Suisse, l'Automobile Club Suisse et le Touring Club Suisse. Et donc, l'idée de ces clubs, et c'est presque un programme politique, ça va être de, à la fois d'essayer de réduire les nuisances, et puis quand on n'arrive pas complètement à les réduire, ben de les faire accepter. Donc, un exemple de nuisance totalement éliminé, et un des rares qui a été totalement éliminé, parce que si on pense aux autres, pollution, bruit, etc., enfin, mortalité, même si ça a été réduit, c'est un fléau qui n'a jamais été totalement éliminé. La poussière, je trouve que c'est un bon exemple, parce que il y a une ligue contre la poussière, il y en a dans plusieurs pays d'Europe, aussi en France, une ligue contre la poussière qui se crée au tout début du XXe siècle, et elle est vraiment liée au Touring Club France et au Touring Club Suisse. Parce que c'est l'idée justement de trouver à la fois une solution contre la poussière, parce que la poussière soulevée par les pneus restait pendant plusieurs minutes, ce qui incommodait vraiment tout le monde. Et je trouve qu'il y a cet exemple assez parlant. La ligue contre la poussière essaie de pousser les autorités à goudronner les routes, mais par exemple, elle finance elle-même des fois l'asphaltisation de lieux. À Genève, par exemple, je crois 2000 m² devant des maisons ouvrières à Sécheron. Donc, il y a l'idée à la fois de réduire les nuisances, mais aussi peut-être de mieux faire accepter l'automobile.
Une fois épousté, on se laisse convaincre par la voiture qui permet d'aller plus vite et plus loin. À partir de 1932, une loi place l'automobile au centre de tous les déplacements. Après les premières réticences, on embrasse franchement la force motorisée.
Il y a plusieurs explications. Il y a une forme d'acceptation qui est liée à justement une progressive législation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lois justement qui vont progressivement ordonner ou régler des problèmes de circulation. Il y a aussi le fait que l'automobile devient une branche économique forte, parce qu'au début l'opposition venait aussi de gens qui travaillaient dans tout ce qui était entretien, enfin tout ce qui était lié à les métiers du cheval, pardon. Ou des cheminots aussi, parce qu'ils voyaient une concurrence là au train qui était en train de se prononcer. Voilà, donc il y a plusieurs explications. Il y a aussi le fait que les nuisances justement ont tendance à se réduire, comme j'ai parlé de la poussière. Hein, on trouve avec l'asphaltisation, on trouve des solutions qui permettent une meilleure acceptation parmi la population de l'automobile. Parce qu'il faut rappeler que justement pendant l'entre-deux-guerres, c'est encore une minorité qui possède une automobile. Et puis il y a un autre argument qu'a avancé l'historien de l'automobile Christophe Maria Merki, c'est l'inégalité des forces finalement. Parce que, comme je l'ai dit, des propriétaires d'automobiles se recrutent parmi une élite, hein, ce sont souvent des gens qui sont représentants politiques, ou qui ont des contacts étroits au niveau local, cantonal et même national. Et les piétons sont minoritaires, sont sous-représentés politiquement. Dans les années 30, les piétons sont défendus par les partis paysans et le parti socialiste. Donc on voit bien cette inégalité, je trouve, dans cette fameuse loi de 1932 qui donne la priorité à l'automobile sur la rue. Il y a plusieurs versions de la loi au cours des années 30, elle va être très discutée. La Confédération implique ce qu'on appelle les milieux intéressés, donc ça veut dire le TCS et la CS qui vont, et d'autres organisations, d'autres institutions, pour donner leur avis sur cette loi. Et finalement, ce sera une victoire du lobby automobile, même si la CS voulait aller un peu plus loin, parce que, par exemple, l'Automobile Club Suisse refusait l'idée de responsabilité causale en cas d'accident. Ça veut dire que d'office, l'automobiliste est considéré comme, c'est un principe juridique, ça veut dire que le propriétaire de l'automobile est considéré d'office comme coupable en cas d'accident, puis après, voilà, en fonction de l'enquête, etc. Donc la CS était contre ce principe. Une TCS a fini par accepter la loi, alors, et elle était très avantageuse pour l'automobile, puisque, par exemple, elle abolissait la limitation de vitesse qui existait au début du XXe siècle. Hein. Il y avait un concordat cantonal qui limitait, par exemple, la vitesse de l'automobile à 10 km/h en ville et 30 km/h en race campagne. Et donc le TCS se satisfait de cette loi de 1932. Puis à ce moment-là, il y a une réaction de la part d'un piéton, on va dire, d'un conseiller national, Schmidt Rutin, il s'appelle, et il dit je vais fonder une ligue des piétons pour défendre les droits des piétons qui se retrouvent vraiment évincés sur les côtés de la route, qui deviennent très officiellement les autres usagers de la route. Et donc ce conseiller national, il dit mais j'arriverai à recruter 2 millions de membres pour ma ligue. Et en fait, il arrive tout juste à avoir 200 membres. Il y a donc cette fameuse inégalité qui apparaît là, parce que à ce moment-là, le TCS s'inquiète quand même un peu qu'il y ait un référendum, parce que justement les droits des piétons reculent à ce moment-là. Et puis il y a un membre du conseil d'administration du TCS qui dit non mais ne vous inquiétez pas, ils ont pas d'argent, ils ont pas les moyens pour mener un référendum contre cette loi.
La voiture gagne sa place dans l'espace public, mais cette nouvelle actrice de la circulation en ville nécessite un peu de pédagogie pour éviter les accidents trop fréquents. On éduque les piétons qui doivent se pousser un peu. Désormais, c'est chacun sa voie. Tiffaine Robert.
Cette prévention routière, hein, cette disciplinarisation aussi des piétons, c'est vraiment un phénomène mondial, européen, et ça c'est vraiment pour l'Europe, c'est vraiment l'entre-deux-guerres. Et des fois, c'est même avant les lois que il y a des messages, des brochures, des conférences aussi d'ingénieurs. Pour éduquer le piéton, hein, on utilise beaucoup ce terme d'éducation des piétons, et c'est surtout son contenement au trottoir. Et puis je trouve intéressant parce que en fait, ça, il y a beaucoup d'images pour justement parler aux piétons de comment ils doivent se circuler dans la rue. Ces images, elles montrent souvent on met en opposition juste faux. Puis c'est intéressant parce que dans le faux, on voit un petit peu des usages qui étaient pratiqués, enfin qui étaient courants dans les villes et dans les rues. Par exemple, on voit dans une de ces brochures, je crois des années 30, qui sont aussi produites en partie par le TCS, c'est un groupe de personnes qui discutent et qui dépassent largement du trottoir, et ça c'est faux. Hein. Donc, et puis là, l'image juste, ce serait que toutes les personnes continuent à discuter, certes, si elles ont la place, mais sur le trottoir. Et là, justement, il y a aussi la question du jeu, évidemment, ça c'est le faux, c'est l'enfant qui va chercher son ballon sur la route. Voilà, le juste, c'est l'enfant et la mère qui le surveille pour qu'il reste sur le trottoir. Les passages piétons, ça c'est quelque chose qui a été petit à petit établi. Enfin, les conditions étaient meilleures. En Suisse, ils sont jaunes et donc bien visibles, mais ils n'ont pas été tout de suite jaunes. Ils n'ont pas tout de suite été visibles. Donc, il y avait parfois juste un panneau qui symbolisait le passage possible pour les piétons. Mais c'est autant d'entraves, en fait, pour la marche, qui est devenu parfois compliqué en ville. Et là, après la Deuxième Guerre mondiale, ça deviendra avec il y a toujours plus de d'entraves aux piétons. Et puis il y aura l'idée de à la fois de sécuriser le piéton, donc en améliorant les passages piétons. Il y a aussi le passage souterrain qui était censé protéger le piéton, mais c'était surtout pour favoriser le flux du transport individuel motorisé, parce que ces piétons, ils entravent la fameuse fluidité. Et c'est pour ça que les passages souterrains posent plein de problèmes, parce que justement ils amènent d'autres nuisances, nuisances, problèmes pour les piétons, entraves à la marche et aussi des problèmes de criminalité, ce genre de choses. Voilà, donc les passages souterrains, je trouve que c'est vraiment un aménagement très parlant des Trente Glorieuses, qui montre que symboliquement, d'ailleurs les militants diront plus tard, les militants pro-piétons, on enterre les piétons pour ne pas, justement, pour enlever des obstacles sur la route.
C'est la fin du règne absolu des piétons et des piétonnes, désormais considérés comme le danger principal. Imprévisible et capricieux, capable de changer de direction sans crier gare et sans effort. La marche incarne désormais le principal péril de la circulation en ville.
Ça, c'est l'historien Peter Norton qui a montré ça pour les États-Unis. Alors, le piéton est effectivement, la plupart du temps, victime, mais petit à petit, dans le truc de guerre, en Europe aussi, on va mettre la responsabilité, pas forcément mettre la responsabilité sur le piéton, mais on va stigmatiser son comportement irréfléchi, qui justement, il y a plein d'images aussi dans les campagnes de prévention dans les années 60 par exemple, et c'est un motif courant qu'on a vu aussi en Scandinavie avant la Deuxième Guerre mondiale. On représente le piéton comme une poule qui marche sur la route, qu'on peut écraser, puis qu'il y a un risque. Mais en fait, effectivement, il y a comme un retournement du danger, puisque si on se place du piéton, le risque vient de l'automobile. Et donc, encore aujourd'hui, dans le langage courant, on dira, par exemple, on entend parfois, il s'est jeté sous la voiture. Ça pointe très clairement la responsabilité des piétons, alors qu'effectivement, ce qui cause l'accident, c'est quand même l'automobile, quel que soit malgré le comportement des autres usagers de la route.
La discipline des usagers de la rue devient un mot d'ordre. Avec l'explosion du nombre de voitures en circulation au XXe siècle, viennent les accidents trop souvent et trop souvent mortels.
Peut-être revenir aux années 50, on est vraiment juste avant la démocratisation. Et il y a justement il y a toujours plus de voitures sur les routes. Les gens ne sont pas encore habitués à ça. Et il y a énormément d'accidents. Enfin, ça commence à exploser, en tout cas en Suisse, les accidents dans les années 50. Il y a aussi beaucoup de délits de fuite et des personnes qui sont shootées, y compris sur des passages piétons. Puis là, il y a une ligue. En Suisse, il y a de nouveau une ligue des piétons qui renaît de ses cendres, même si ce n'était pas la même que dans l'entre-deux-guerres. À Zurich, c'est une ligue vraiment très respectable. On parle pas ici de mouvements anti-automobile, ou c'est des ingénieurs zurichois qui sont sensibles vraiment à cette mortalité sur la route par la massification justement de l'automobile, le nombre d'automobiles. Et je trouve intéressant de regarder cette revue. Ils ont une revue pendant 10 ans parce que à la fois justement elle milite pour des mesures de prévention, une meilleure protection des piétons, par des passages piétons, des trottoirs partout, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des trottoirs. En Suisse encore, on a de la chance, il y a beaucoup de trottoirs, mais déjà en France, par exemple, il y a parfois cette absence de trottoirs qui pose problème aux piétons. Et il y a aussi des commentaires quand même sur le comportement de certains automobilistes. On parle même de démonstration de pouvoir quand les voitures sont grosses. C'est par rapport à aujourd'hui, le débat sur la place de l'automobile et surtout sa taille, c'est intéressant parce que dans les années 50, ce journal dit, l'un des membres de cette ligue dit, c'est scandaleux, les constructeurs automobiles ont tendance à produire des voitures toujours plus grosses, alors qu'ils ne sont pas du tout adaptées à la largeur de nos rues. Donc voilà, il y a ce militantisme, cet activisme piéton qui est très consensuel. Il s'agit vraiment de réduire la mortalité avant de s'occuper vraiment du bien-être, ça arrivera plus tard, du bien-être des piétons et puis de la revalorisation de la marche en ville, et ça, ce sera plutôt dans les années 70.
Tout à coup, on trouve qu'il y a peut-être trop de voitures. Et même le Touring Club Suisse s'en préoccupe. Jean-Claude Sima, secrétaire général du Touring Club de Genève en 1985.
Les mentalités ont rapidement évolué quand même. Parce qu'il faut se rendre compte des faits, il faut être pragmatique, mais pas dogmatique. On voit très bien avec ce trafic pendulaire qui déferle tous les jours, notamment avec ce problème des frontaliers, qui représentent 17% de personnes actives, que tout ce qui est pendulaire doit être absorbé par les transports publics. Ça, on s'en est rendu compte au Touring Club Suisse. Il n'y avait plus besoin de développer l'automobile. Du reste, on a modifié nos propres statuts et on a enlevé cette phrase qui prônait dans les statuts un développement de l'automobile. Nous sommes pour créer des sites propres, pour les voies réservées aux transports publics, pour les feux préférentiels, parce que c'est la seule solution pour la ville, pour le milieu urbain, c'est la seule solution. Pour le trafic pendulaire, entendons-nous bien. S'il y a bien des régions, ils ne pourront jamais utiliser les transports publics, celui qui habite Chancy, de la même manière que celui qui habite Merin, qui est sur un axe bien fourni.
Oui, alors après la Deuxième Guerre mondiale, si on lit par exemple la revue du TCS qui s'appelle le Touring, on parle de renaissance automobile. En fait, on se réjouit vraiment au sein des milieux promoteurs de l'automobile de l'augmentation, de la massification, de l'augmentation des ventes et du fait que toujours plus de personnes ont accès à l'automobile. Mais effectivement, à la fin des années 60 déjà, on pense que du côté du TCS également, on se rend compte que les routes commencent à être saturées. Alors évidemment que l'autoroute sera une réponse à la saturation du trafic, bon, qui ne marchera pas toujours, mais ça c'est encore une autre histoire. Là, dans les années 60, on commence la construction des autoroutes avec la fameuse inauguration de la Une entre Genève et Lausanne en 1964 lors de l'exposition nationale. Et donc, oui, on se rend compte que ça va poser problème. Et petit à petit, le TCS, d'autres acteurs et aussi les municipalités se disent c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas se déplacer en automobile. Il faut trouver des solutions. Et là, au début des années 70, avec aussi la naissance de l'écologie politique, il y a l'idée chez des militants. Là, je pense à l'Institut de la Vie à Genève, par exemple. Il y a des militants qui disent qu'il faut absolument revaloriser les transports publics. Et là, c'est surtout valable pour Genève où ça a été, les transports publics ont vraiment souffert au cours des années 60. On pourrait parler de la disparition des trams. C'est un petit peu différent dans d'autres villes où quand même, par exemple, à Lausanne, les transports publics ont gardé une espèce de valeur aussi en termes culturel, mais par contre à Genève, là, l'Institut de la Vie dit qu'il faut donner des voies propres au transport public pour qu'il soit concurrentiel, parce que si on réinstaure des trams et des bus, il faut qu'ils soient prioritaires sur la route. Et puis on pense même et on évoque même la question de la gratuité des transports publics au début des années 70. Voilà, donc ça, ce sera pas très bien accueilli par les milieux pro-automobiles, mais quand même petit à petit il y a cette prise de conscience là, et puis ce regret finalement que qu'on puisse pas tout le temps se déplacer en automobile. Puis en fait, le fait que les embouteillages, la saturation, ça réduit l'efficacité évidemment et l'intérêt de prendre la route.
Dans le prochain épisode, on poursuit notre balade dans l'histoire des usages de la rue et cette fois, on prend des nouvelles du monde. Histoire vivante, c'est Anaïs Quien avec Daniel Zacker à la préparation et Isabelle Barthes à la réalisation. On retrouve Lucas Torrent et dit pourquoi juste après les infos. Il est 14h sur RTS Première.